Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
La nuit de l'after continue pendant encore une heure. Nous sommes là jusqu'à 3h, il est 2h02 du matin. Daniel Riolo est là, Maxime Chano, Samuel Umtiti, bien sûr pour l'équipe de France au programme pour parler également du Maroc. Un peu plus tard, le Maroc qui a battu tout à l'heure le Canada 3-0 et qui sera le futur adversaire de la France, quart de finale de la Coupe du Monde. Jeudi soir pour l'équipe de France, France-Maroc, ce sera à 22h. Laurent est avec nous au 32-16. Laurent, bonsoir.
Salut l'équipe.
Salut Laurent, ça va?
Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de beau à ce temps-là?
J'ai un énorme coup de gueule et puis j'ai une anecdote et je vais essayer d'être très rapide. L'énorme coup de gueule, c'est contre la FIFA sur le choix de l'arbitre ouzbek Ilik Tantachev. C'est un arbitre qui est réputé pour laisser le jeu se faire sans sanctionner.
Ah, ça, c'est la question de l'Ouzbékistan peut-être.
Ben, il a déjà créé la polémique lors du match Écosse-Maroc. La presse écossaise, ils en parlent encore. Hein. Il est connu, on l'avait vu au Mondial des clubs, on l'a vu à la Ligue des champions asiatiques. C'est un arbitre qui ne siffle quasiment jamais. La seule fois où on l'a vu siffler, c'était au JO en 24 entre la France et l'Argentine, où là, il avait expulsé un joueur argentin, il a émis une dizaine de cartons, mais c'est la seule fois de sa carrière où il l'a fait. Et quand on sait par avance ce que va être le match, parce que tout le monde le savait, l'analyse de Daniel sur l'équipe du Paraguay il y a 3 jours, elle était très juste, en fait, on la connaît, cette équipe. Comment ça se fait que la FIFA a choisi cet arbitre? C'est une catastrophe ce soir. Moi, je ressors du match en me disant, putain, ça fait 30 ans que je regarde le foot. Je ressors dégoûté, en fait. Ils ont fait 49 tacles, les Paraguayens. Il y a une moyenne de 10 à 20 tacles par match sur tous les matchs du Mondial. Ils sont à plus de 50 fautes et ils ont zéro carton. Donc voilà, énorme.
Oui, moi, ça me perturbe pas tant que ça, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Bon, alors c'est peut-être parce que les Bleus ont gagné que ça me perturbe pas trop, mais écoute, je sais pas, moi j'aime bien. Bon, toi. Alors
je pense qu'on ne reverra plus arbitrer la Coupe du Monde celui-là.
Peut-être que là, effectivement, dans ce match, c'est abusé. Mais véritablement, s'il y a un point que j'ai envie de mettre en avant dans cette Coupe du Monde depuis le début, là, sans parler de ce qui se passe sur le terrain, mais l'arbitrage, vraiment, mais j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. En Ligue des Champions, en Ligue 1.
Ce soir, tu parles de l'arbitrage en général à la Coupe du Monde.
L'arbitrage depuis le début de la compétition, oui. Je le trouve formidable. Ça laisse jouer. Je vois des mecs qui essayent de se rouler par terre en perdant du temps. L'arbitre qui va vers lui dit vas-y, lève-toi maintenant, ça suffit. Franchement, l'arbitrage, c'est une réussite. Ce match-là, ok, je veux bien admettre une ou deux réserves.
Mené par Colina, qui est le patron des arbitres de la FIFA.
Ben moi, cet arbitrage-là me plaît vraiment beaucoup. On a perdu très peu de temps dans la consultation du VAR. J'ai l'impression qu'on donne des instructions très rapidement aux arbitres. On laisse jouer les contacts. On n'arrête pas pour tout et pour rien. Mais mon Dieu, si on pouvait en Ligue 1 copier ça, ce serait formidable.
Samuel, t'es d'accord avec ça?
J'aime bien, oui, parce que ça donne du rythme au match, le fait de laisser jouer, à part pour le match d'aujourd'hui, à certains moments, pour moi, l'arbitre aurait dû sanctionner les joueurs paraguayens, mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le fait de laisser jouer et de pas arrêter, on va dire, à chaque contact. Et on le sait, dans le foot, Max pourra me confirmer que il y a des joueurs qui aiment au moindre contact tomber par terre, se rouler au sol.
Et hurler comme si
ça casse le rythme. Ça casse le rythme. Et au final, le football, pour moi, c'est un sport aussi de contact. Donc, c'est normal qu'il y ait ces contacts-là dans un match. Mais, bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais, il faut dire la vérité, c'est que là, pour la Coupe du Monde, je suis assez surpris en bien du fait que les arbitres ont pris ces décisions-là de laisser un peu plus jouer.
Maxime.
Et ça, je pense qu'on est d'accord. Et d'autant plus que si tu rajoutes les pauses fraîcheurs, si en plus t'as des arbitres qui passent leur temps à siffler,
tu
passes ton temps à t'arrêter. Donc je pense que c'est une bonne chose. Depuis le début de cette compétition, on est tous d'accord que l'arbitrage.
Ah, ce serait donc un effet.
Crédit à la FIFA.
Un effet domino de l'arrivée de la pause pub. On a peut-être
déjà. En tout cas, contrebalance. Mmh. Mais Sam l'a dit, on en a marre des joueurs qui passent leur temps par terre. On arrête le jeu pour ci, pour ça. C'est pareil pour les touches, les rentrées en touche. Je trouve ça bien. Je trouve ça fluidifie le jeu. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Daniel, et sur cet arbitrage de ce soir, c'est surtout que c'est en fait si l'arbitre dès le début du match ou en tout cas très tôt dans la partie, il avait sanctionné un petit peu les fautes d'anti-jeu, je parle uniquement d'anti-jeu des Paraguayens, en mettant un ou deux cartons jaunes, et ben Almirón ou Enciso, ben il aurait pas continué à faire la même chose un peu plus tard, parce que c'est très bien qu'un joueur qui a un carton jaune, qui a averti, ne joue pas de la même manière.
Puisque
l'arbitre n'a pas sorti de carton jaune aux Paraguayens, et ben ils ont continué, parce qu'en fait c'est ça, on appelle ça un avertissement, c'est pour dire aux joueurs attention, la prochaine fois t'es dehors. Et des fois, l'arbitre a tout à gagner à mettre un carton jaune très tôt dans la partie aux joueurs. Et je peux te dire qu'après, le comportement change. Et ça n'a pas forcément été le cas. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a vu des actes d'anti-jeu jusqu'à la, quoi, jusqu'à la 70e minute. Comme par hasard, quand les Français ont gagné, en tout cas, quand les Français ont marqué le but, ah bah, les Paraguayens se relevaient un peu plus vite. Mais ça fait aussi partie de leur ADN. On l'a dit plus tôt. C'est la culture sud-américaine. Et on n'est pas surpris. Et même Deschamps n'est pas surpris parce que visiblement, il avait prévenu les joueurs avant le match.
Laurent, donc tu avais ton coup de gueule et tu nous as vendu une anecdote aussi.
Ouais, une petite anecdote. Ça fait 9 mois que je travaille sur l'ouverture d'un festival de théâtre le 9 juillet avec un spectacle franco-marocain dans un truc énorme France-Maroc.
C'est à 22h.
Et je me retrouve à 21h, je me retrouve en concurrence avec le match France-Maroc. Je suis dégoûté.
Oh, y a.
Quelle erreur.
Et j'ai toute la communauté marocaine de la ville dans laquelle j'ai mon festival. Et je me dis, mais on va perdre de l'argent.
Tu veux pas avancer
dans le festival dans ce cas-là.
Tu veux pas l'avancer à 19h? Comme ça, tu vois.
Non, mais je me suis même dit que j'allais essayer de trouver une solution pour mettre un écran géant et faire le match. Je sais pas comment je vais faire.
Tu l'as, ta solution.
Je suis coupé en deux.
Bon, voilà. Écoute,
et un écran dans le festival.
Est-ce que nous, avec les copains en France, on se marre à se dire que c'est plus l'after-foot, c'est l'après-foot? Parce qu'en France, on a le petit côté anglais. Mais aux États-Unis, est-ce que vous dites après-foot, vu que les Américains, ils connaissent le mot after?
Eh ben non, on dit after-foot. D'ailleurs, aussi, ils ont leurs after, que je l'ai raconté, je ne sais plus quand, là, sur Fox. On va s'en inspirer, peut-être, très bientôt, d'ailleurs, parce qu'ils font des trucs de dingue. Laurent, merci. Ben, bon festival, bon match et festival jeudi. Hein, et à très bientôt dans l'after.
Et puis, profitez bien, les gars, et merci pour tout encore. Merci.
Salut,
pour tout.
À bientôt. Bye-bye, Laurent. Bon, démarrons l'évaluation. Les gars, il y a un truc à dire sur Maignan aujourd'hui? C'est comme contre la Suède, rien à dire.
Moi, je vais dire un truc sur Maignan.
Ouais.
Je pense qu'il devrait, comment dire, beaucoup plus utiliser la relance rapide et longue. Il l'a fait à la 52e.
Ah, sur Mbappé.
Sur cette très belle ouverture pied fouetté, enfin le dégagement là, vers Kylian, qui a raté son contrôle parce qu'il partait seul au but. Mais plusieurs fois, je le vois très bien intervenir dans la surface. Et si on organisait Mbappé ou un autre attaquant dans un angle pour effectuer une relance à la main rapide, je pense qu'il y aura des situations de contre-attaque très intéressantes. Je pense qu'il a largement les moyens de le faire. Il devrait le tenter plus souvent.
Ouais, il l'a déjà fait. Après, quand tu as des joueurs adverses qui se mettent en opposition, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire après, c'est pas forcément facile pour lui de relancer. Mais on sait que Mike, il a un très 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 bon pied. Ouais.
Bon, à l'époque, on avait Bernard Lama qui faisait des relances à la main dans le camp adverse. Ça se voit plus trop. Mais bon.
C'est à lui que je pensais.
Défense centrale, les gars, là c'est pareil. Bon, ils n'ont pas eu énormément de boulot ce soir. Bon. Quoi, Upamecano,
c'est pris quelques solide, coups de coude. J'ai vu sur une rare.
Saliba, on l'a vu faire des courses où il a miminable ses adversaires, ce qui n'était pas le cas lors de.
Exactement, j'étais en train de penser à ça. Sur les rares incursions paraguayennes, j'ai vu un retour de Saliba à fond les ballons où il ne s'est pas laissé prendre par la vitesse de l'attaquant. Non, charnière centrale ce soir, là je ne vois pas ce que. Non. Là, je pense Max et Sam, ils pouvaient faire la charnière ce soir.
Je l'ai trouvé énorme depuis le début de cette compétition. En effet, Saliba sur quelques matchs, notamment à cause de sa blessure au dos, on le sentait parfois gêné, mais là, je l'ai trouvé parfait.
Non, mais vous pensez pas que tous les deux, vous pouvez faire charnière ce soir tellement il n'y a pas d'attaque en face?
Moi, je peux pas, en tout cas. Sam peut-être peut encore jouer. Moi, ça va être beaucoup plus compliqué.
Après, il y avait pas forcément grand chose à faire, c'est sûr, mais
t'avais juste cette chance
qu'ils devaient faire, ils l'ont très bien fait et je trouve qu'ils se complètent très bien. C'est une charnière centrale pour moi de très 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 haut niveau.
Bien
et
sûr.
Ils arrivent à être très bons dans l'anticipation, dans les duels 1 contre 1. Ils sont très bons, même si c'est vrai qu'il y avait pas forcément beaucoup de points en face. Mais ils l'ont fait et comme je pense c'est ce que tu vas dire, c'est que dans ce genre de match, il faut faire très attention, c'est que t'en as peut-être une ou deux. D'action à faire et il faut être très bon et je trouve que mentalement pour moi c'est ça un défenseur aussi, c'est dans les duels ok, mais dans la gestion de son match, dans les moments forts ou dans les moments importants, c'est là où il faut répondre présent et je trouve que ils arrivent à le faire, il y a peu d'erreurs de leur part et pour moi c'est ça prouve leur niveau actuel.
Ouais, je suis d'accord. Toi, t'as souvent été d'ailleurs dans les équipes qui avaient la possession. Moi, c'était plutôt l'inverse. J'étais plutôt dans les équipes bloc bas. Mais en attendant, justement, c'est pas facile, en fait, quand t'es défenseur central et que t'es dans une équipe où t'as 80% de possession. Derrière, tu as deux ou trois actions où tu dois bien les gérer. Et ça demande aussi énormément de concentration. Et c'est là que moi, j'ai envie de mettre en avant ces deux-là. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont quoi? Ils ont cette accélération d'Almiron. Derrière, ils sont à deux contre un. Ils arrivent à bien la gérer. Alors que c'était une contre-attaque, quand même, qui était dangereuse de la part des Paraguayens. Donc, non, pour moi, je vais être très honnête avec vous. C'est la base de cette équipe de France. Elle fait évidemment partie de cette épine dorsale. Je pense que ça fait très longtemps, et peut-être que Sam va être énervé contre moi, mais qu'on n'a pas eu une défense centrale aussi forte en équipe de France.
Je peux répondre?
Bien sûr.
Je vais répondre. Après, moi, je ne suis pas trop dans les... pour essayer de comparer, parce que il y a eu des défenseurs de très haut niveau en équipe de France, mais sur celle-là, je peux le dire, c'est une défense centrale en tout cas de très haut niveau. Mais je pense que ça sert à rien de comparer
Non,
jamais de la vie. J'oserais même pas faire ça. J'oserais même pas faire ça. Mais je pense que il faut pas comparer. Et il faut pas comparer. Et que le moment là actuel, on a la chance d'avoir des centraux de très grande qualité. Il faut parler que de ça, de ce qu'ils sont en train de faire.
Je vais chipoter sur un truc concernant Upamecano. Il l'a fait deux fois dans le match ce soir. C'est-à-dire qu'il s'est pris des coups. Et en fait, quand il récupère le ballon, parfois, il peut la donner tranquillement à Maignan et puis on passe à autre chose. Et en fait, il garde le ballon dans les pieds, il s'appuie sur le mec qui vient lui mettre la pression en mode, de toute façon, toi, tu peux toujours venir, tu l'auras pas le ballon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai. Et il essaie de se retourner vers le petit côté pour relancer. T'as l'impression que c'est pour donner l'impression au gars avec qui le duel que, voilà, de toute façon, toi, t'es mort, tu feras rien. Donc, je vais te montrer que je peux relancer malgré toi. Alors qu'il pourrait juste la donner à Maignan et hop, tu repars.
Mais ça veut aussi dire qu'il est juste trop fort, en fait, qu'il s'amuse avec les attaquants. Il y en avait qui disaient qu'aujourd'hui l'Amérique fêtait sa liberté, tu sais, et que Upamecano lui avait pris la liberté d'Enciso tellement il avait été sur ses côtes, il l'avait complètement éteint, quoi. Non, moi ce que je peux reprocher entre guillemets à ces deux, et Sam aussi est bien placé, c'est que peut-être ils ne marquent pas assez. Voilà. Les défenseurs centraux doivent être, je te parle d'Upamecano et de Saliba. C'est vrai que c'est important d'avoir justement, et dans ce genre de match où est-ce qu'on a du mal à trouver l'ouverture dans le jeu. Et eh bien d'avoir des défenseurs centraux qui te libèrent. Et tu l'as fait, Sam, Raph l'a fait. Oui. Enfin, je veux dire, c'est important quand même.
D'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, c'est quand on parle d'un défenseur, il ne faut pas oublier, c'est un défenseur. Il doit être capable de défendre son but, aider son équipe à ne pas encaisser de but. Donc oui, si tu as la possibilité d'apporter offensivement, ça soit même, parce que là tu dis de marquer des buts, mais ça soit même dans la qualité de passe. Mais pour moi, un défenseur central, c'est un défenseur central avant tout. Et après, ça, pour moi, c'est...
Après, si le ballon te rebondit par hasard sur la tête dans une demi-finale de Coupe du Monde, ça, tu peux rien. Après, tu prends. Si t'es là, t'es là, quoi, tu vois. Bon.
Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas comparer, mais on a la chance d'avoir de très grands centraux parmi nous, en tout cas dans cette équipe de France.
Lucas Digne a définitivement gagné sa place?
Oui, bah oui, mais ça, c'est un vieux débat, Gilbert. C'est bouclé, ça.
Vous êtes d'accord, les gars?
Je suis d'accord.
Très grosse performance pour moi encore.
Bon, Koundé, on a déjà dit, on en a déjà parlé. Comment, Sam, tu évalues le match d'Adrien Rabiot?
Adrien Rabiot, pour moi, c'est comme toute l'équipe, pour moi, qui a été au service de ses coéquipiers. Et à la fois, on l'a vu à certains moments, qui voulait être dans la surface sur les centres pour apporter un peu plus de présence aussi, parce que de la tête, il est assez efficace. Mais pour moi, il fait un match correct. Il a été bon dans les récupérations de balles, dans l'équilibre aussi de l'équipe. Donc il a fait le job qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc belle prestation d'Adrien Rabiot.
D'accord, les gars, sur.
Mais moi, je trouve que c'est un match où finalement, qui n'est un match qu'offensif. Donc toute la partie défensive du jeu ne mérite même pas de commentaire, sauf si un mec se déchire et écoute une occasion ou un but. Je vois même pas réellement comment en parler. Donc de Rabiot, je retiens son travail au milieu et ses tentatives de frappe, mais j'ai même pas envie de lui en vouloir pour ses frappes qui sont parties ailleurs là, parce que au moins il a tenté quelque chose et il a appliqué une règle qui est pour moi importante. Quand t'as le bloc comme ça, tente de loin. Il l'a fait, il a raté, c'est pas grave. J'aime quand on ose et quand on a l'audace de faire ce genre de truc. Mais moi, les matchs de Koné, de Rabiot, en fait j'ai l'impression que les bleus d'aujourd'hui ne peuvent être analysés que si on analyse le caractère et le jeu offensif. Le reste,
Alors, Samuel doit nous laisser, hein, parce que lui aussi il doit repartir avec la BO de Rocky et aller courir sur les marches là-bas à Philadelphie. On va ouvrir un dossier Dembélé. Est-ce que tu es d'accord si je dis que Dembélé, un peu comme contre la Suède, a été le moins en vue des quatre de devant?
Bon, moi je dirais que c'est Olise.
J'ai posé la question à Samuel. Ouais, okay.
Le moins en vue, je trouve que c'était dur, et encore une fois, quand on le trouvait, il était à chaque fois il y avait à chaque fois deux joueurs sur lui, donc c'est très compliqué. Et si je me souviens bien, on l'a trouvé une ou deux fois où il était un contre un. Il a réussi à rentrer dans la surface ou à frapper. La frappe, elle a été contrée. Il a fait ce qu'il a pu. Mais moi, je trouve que cette équipe du Paraguay l'a mis en difficulté avec ses prises à deux. Donc c'était attendu. Pour moi, c'était attendu qu'il fasse ce match-là. C'était pas forcément évident pour lui, mais oui, ça soit lui ou même après Olise qu'on a un peu plus vu quand il y avait un peu plus d'espace. Mais c'était compliqué pour ces joueurs offensifs de se mettre en avant.
Olise,
merci peut-être. Samuel, on te laisse.
Merci à vous.
Okay. À très vite.
Allez, ciao. Salut Sam, à bientôt. Olise a peut-être fait son moins bon match depuis le début de la compète.
Tu trouves?
Ouais, j'ai trouvé assez effacé.
Moi, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on l'a vu quand même.
Ouais, mais maintenant, le truc, c'est qu'on en attend toujours énormément. C'est devenu notre vedette.
Il est passé à côté de son match.
J'ai pas trouvé bon ce soir, mais attention, c'est très difficile de jouer contre des équipes qui jouent comme ça. Bloc bas, c'est toujours la même histoire quand on les voit, ces matchs-là. T'es obligé de critiquer les joueurs offensifs, puisque justement c'est QFD. Si tu ne marques pas, si tu butes sans arrêt sur le béton de l'adversaire, bah c'est que tes joueurs offensifs trouvent pas la faille. Donc tu te demandes pourquoi tu trouves pas la faille, et souvent ça vient de tes joueurs. Barcola fait un mauvais match aussi. T'es obligé de dire
ça.
Mais ça m'embête de le dire, parce que c'est plutôt l'adversaire qui te pousse à être pas bon.
Il y a une vérité aussi, Daniel.
Pardon ?
Il y a une vérité, je suis d'accord avec toi. Alors,
oui,
c'est
mais en fait,
de critiquer,
c'est une vérité qu'il faut relativiser, parce que c'est l'adversaire qui te rend mauvais. C'est ça qu'il faut dire.
Mais ça fait partie aussi.
Ça fait partie du jeu, Daniel, c'est de la stratégie, c'est de la tactique. L'adversaire te rend mauvais. L'adversaire a rendu mauvais notre jeu offensif. Il l'a annihilé. Tu n'as gagné que 1-0 par le biais d'un joueur qui entre en jeu, qui a provoqué, qui a obtenu un pénalty. Tu dois féliciter ce joueur qui a provoqué ce pénalty et celui qui l'a transformé, parce que à ce moment-là du match, avec ce moment de tension, il faut le mettre au fond. C'est pas simple à ce moment-là. C'est pas un match de championnat où t'as un péno à la 15e. Là, c'est un moment clé, parce que tu n'es pas sûr si tu mets pas ce péno d'avoir une occasion, et si t'es pas emmené et de pas être emmené à la prolongue. Donc voilà. Mais pour le reste, les joueurs offensifs, ouais, ils méritent à peine la moyenne ce soir. Forcément, non, t'as pas réussi.
Pour moi, la prestation ou la tactique plus générale du Paraguay, ça doit donner des idées justement au prochain adversaire de l'équipe de France. Alors évidemment, on sait que le Maroc ne va pas se jouer de la même manière. Mais quand on voit un petit peu comment nos offensifs ont roulé absolument sur tout le monde depuis le début de cette compétition, quand on voit justement là, cet après-midi, comment ils ont galéré contre ce bloc paraguayen, je me dis qu'aujourd'hui, les Paraguayens, ils ont réussi leur coup. Et c'est vrai qu'on peut revenir sur les cas individuels. Dembélé, qui pour moi a été très brouillon. Alors ça a été mieux en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a complètement disparu. Et puis surtout, tu l'as dit, mais Barcola et Olise. Alors je comprends, Daniel, et je suis d'accord avec toi, que c'est beaucoup plus difficile pour ce genre de joueur avec ses qualités de jouer contre des blocs bas. Mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré, moi, j'avais un peu plus d'espoir de les voir un peu plus briller. Et là, j'ai le sentiment que chacun est un petit peu tombé dans ses travers
qu'ils allaient les faire péter très vite et que ça ferait 2 ou 3-0.
Moi, si je dois reprocher quelque chose, et encore une fois, on essaie de trouver du point négatif à cette équipe de France qui est juste exceptionnelle depuis le début de la compétition, mais par rapport à ce match-là, messieurs, j'ai trouvé que chacun essaie de faire un petit peu son numéro, et on se rend compte que quand on joue de manière individuelle, ça ne fonctionne pas.
Vincent est avec nous au 32-16. Vincent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Maxime, et Samuel est parti, donc c'est pas grave.
Ouais.
Merci de me recevoir, les gars. Je voulais faire deux points rapidement.
Allez, vas-y.
Le premier, bravo déjà pour l'adaptation des joueurs depuis le début de la compétition face à l'arbitrage. Vous en avez parlé juste avant avec Daniel, où moi je suis d'accord complètement avec lui concernant l'arbitrage qui laisse beaucoup jouer. Chose que les joueurs sont peut-être pas habitués. Je parle pas de la Ligue 1 parce que bon, on est des années-lumière de l'arbitrage Ligue 1, mais même niveau international, Ligue des Champions, je trouve que l'arbitrage est beaucoup plus vivant et les habitudes des joueurs ont sûrement dû changer. Et je pense que le staff y est pour beaucoup aussi dans l'adaptation du comportement des joueurs. Deuxième point, ça reprend ce que Maxime a dit à l'instant. Quand je vois le match de ce soir, je me pose des questions pour les prochains matchs de la France. Est-ce que les adversaires qu'on risque de rencontrer, alors je parle déjà de premier tour du Maroc, est-ce que leur style de jeu, il peut se rapprocher du Paraguay de ce soir?
Sans déconner, vous les voyez jouer le Maroc depuis des années, c'est en aucun cas.
Daniel, c'est
ils vont pas faire, ils vont pas faire le match Espagne et Portugal de 2022. Hein.
Mais non, mais c'est pas ce qu'on veut te dire, c'est que Daniel, un match dure 90 minutes, sur une tranche de 20 minutes, le Maroc peut être en mesure de se dire, écoute, le Paraguay a inquiété l'équipe de France de cette manière, on va se positionner en bloc.
Alors que ce soir, il vient avec les Barbelés.
Mais ça, ça peut.
Le scénario dont tu parles, c'est le Maroc mène 1-0, il reste une demi-heure à jouer.
Oui, mais ça, c'est contre n'importe qui, ça donnerait ça.
Là. Non, pas contre n'importe qui, la preuve contre le Pays-Bas, ils l'ont pas fait. Alors tu vas me dire, certes, ils devaient marquer ce but-là, mais aujourd'hui, je pense que le scénario.
Le Maroc va pas faire ce qu'a fait le Paraguay, ils vont pas tirer la chaîne avec les clous là, comme la police quand ils veulent arrêter quelqu'un dans la rue là, tu sais le.
Non mais le Maroc a aussi un rapport, il y a un rapport aussi de force qui veut qu'aujourd'hui tu veux pas te retrouver en bloc bas contre l'équipe de France.
Bien sûr.
Moi je pars pas de ce principe-là.
Vincent,
je pars du principe où depuis le début de la Coupe du Monde, tu l'as dit Gilbert, la France, enfin tu voulais tout dire, et on est tous d'accord, la France elle impressionne vraiment par son jeu, l'adaptation. Le match de ce soir, c'était encore un match avec une physionomie vraiment différente avec l'adversaire qui fait qu'on a aussi pas vraiment changé notre style de jeu parce qu'on a toujours essayé d'attaquer par les côtés, de provoquer et c'est ce qui donne le penalty. Mais au final, le match de ce soir, l'objectif du Paraguay, bah, tu l'as dit Daniel, c'était de jouer leur jeu et de se retrouver dans cette configuration un peu comme l'Allemagne et d'aller le plus loin possible pour viser les tirs au but. Et est-ce que les adversaires de la France, vu qu'ils voient que la France a tellement de qualité, est-ce que l'objectif du coup ce serait pas de jouer
non mais tu attends excuse-moi mais tu n'improvises pas ça. Ça c'est quelque chose que tu prépares le Maroc depuis maintenant des mois voire des années, ils sont passés à tout autre chose. Ça voudrait dire que sur ce match-là d'un coup, tu vas aller voir avec un défenseur supplémentaire avec moi franchement, j'ai du mal. Autant peut-être un milieu, et encore je dis ça, mais je jette ça comme ça, mais Amrabat au milieu en supplément pour mettre un petit peu plus de puissance dans la récup. Mais je vois pas, ils ne jouent plus comme ça, ils ne vont pas se renier. Ils iront mourir avec ce qu'ils préparent maintenant depuis des années, avec ce coach qui a été champion du monde.
Même si tu sais qu'en jouant comme ça, Daniel, tu t'exposes à te prendre des contre-attaques.
Mais tu t'exposes de la même façon à jouer en bloc bas en mettant un défenseur de plus si tu sais pas le faire, si t'as pas les joueurs pour le faire. Tu vas t'exposer, tu vas aller prendre le risque de changer tactiquement pour probablement perdre le match à 80%, alors que en te reniant sur tout ce que tu travailles. Mais jamais
c'est
là,
pas ce qu'on dit. Mais contre le Brésil, par exemple, contre le Brésil, quand il y avait un but partout, les Marocains ont continué à jouer. Peut-être que contre l'équipe de France, avec ce qu'a fait le Paraguay, bah, ça va donner des idées à Wabi en se disant on va peut-être pas trop ouvrir, on va plutôt essayer de
bloquer. Bien sûr, Max, t'es un très bon exemple avec le Sénégal. Mais bien sûr, faisons des conneries à l'appel. Mais arrêtez de croire
c'est
ça,
différent.
C'est fini
mais
ce football,
mais non, mais c'est différent. Le Sénégal, ils ont joué devant leur but.
Ils ont fait les choix qu'il fallait pas faire.
Ah bah si. Le Sénégal, ils ont mis le but devant leur but et on a vu ce que ça a donné. Ils ont ramassé 3 goals contre
les Belges. C'est exactement ce que je te dis. Donc il faut pas le faire.
Mais non, mais il y a une différence entre jouer très bas et bloquer les lignes, en tout cas jouer avec un bloc compact comme on fait le Paraguay.
Mais pas si tu ne le fais pas. Si tu ne sais pas le faire, tu vas pas t'improviser. Si c'est parce que tu travailles tout le temps.
Alors je vais donner un conseil aux Marocains. Excuse-moi Gilbert pour terminer. S'ils jouent en ouvrant leur ligne, je peux te dire qu'ils vont se faire rouler dessus avec toutes les qualités qu'ils ont.
Mais avec au lieu de perdre tu perds un à l'arrache, tu perds quand même.
Vincent, t'es d'accord avec ce que t'as entendu sur Barcola, Dembélé, Olivier qui ont été moins bien?
Daniel dit parce que on change pas comme ça. De toute façon, une tactique d'équipe, il y a une préparation qui est faite en amont. Et je pense pas que ce soit lié à un match, donc j'avais déjà un petit peu ma réponse, mais je pense quand même que ça peut aussi faire questionner des fois le groupe, pas le groupe, je veux dire, mais pendant le match, ça peut faire questionner aussi la tactique d'une équipe, surtout vu la configuration d'un match, si on est mené au score ou pas. Là, on voit aussi qu'ils ont aussi voulu faire jouer sur la pression et puis peut-être avec l'objectif de faire expulser un joueur pour se retrouver à 10. Et puis se retrouver en supériorité numérique. Donc voilà, je suis d'accord avec Daniel, je pense pas que le Maroc va changer son style de jeu. Mais voilà, je pense que c'est les questions qu'on peut aussi se poser quand on voit le match de ce soir. C'était vraiment à chaud par rapport au match de ce soir que je voulais réagir.
Merci Vincent.
Merci à vous.
Salut
les gars.
Vincent. Bonne soirée. Dites-moi les gars, est-ce que les 4 de devant, on peut commencer à les appeler, comme à la grande époque du football français, le carré magique.
Non, mais ce genre de truc, ouais. ça m'intéresse pas. Le genre c'est de surnom, les quatre, comme les quatre fantastiques au PSG et tout, ce genre de conneries, non. Non. À la fin, on verra. Mais de toute façon, carré magique, c'est une appellation qui date de quelque chose. Il faudra que tu trouves un autre surnom.
Ah, tu veux dire, on peut pas copier?
Non, 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 tu trouves un autre surnom. T'as jusqu'à la fin de la Coupe du Monde pour trouver. Parce que s'ils gagnent pas.
Bah, tu peux chercher aussi. Hein.
Oui, carré magique, c'est toi, pas
c'est toi que ça intéresse,
hein,
le surnom.
Non, bah non, mais là, c'était comme ça. Parce que
si
ça,
c'est toi que ça intéresse, c'est à toi de trouver.
Ça me venait. Voilà, après, carré magique, le problème, c'est que. Oui. Ils n'ont pas gagné. Enfin, le carré magique, à l'époque de l'équipe de France, il existait déjà, ils n'avaient pas encore gagné. Bon, on va refaire l'histoire. Dans un instant, on est de retour. Et on va parler du Maroc, qui a battu tout à l'heure le Canada 3-0. Supporters du Maroc, on vous attend au 32-16. On va essayer de se projeter un peu vers le match de jeudi, même si on a déjà un peu commencé. Et puis, l'actu du jour à la Coupe du Monde également au programme dans un instant. Et puis toujours un peu d'équipe de France avec des réactions, bien sûr. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 2h28, la nuit de l'after continue jusqu'à 3h, bien sûr, après la victoire de l'équipe de France, la qualification à quart de finale de la Coupe du Monde 1-0 face au Paraguay. Quelques propositions tombent sur le chat YouTube de l'after, sur le numéro WhatsApp. On nous dit il faut baptiser les cas de devant la Modo. La Modo.
Pourquoi?
La Modo, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Mbappé, Ousmane, Doué, Olise. Voilà, c'est la Modo.
Ah ouais.
Bah ouais, mais c'est pas Doué, c'est Barcola. La Mobo, alors.
Ah, la Mobo, alors.
Déjà, c'est nul.
La Mobo.
Je prends pas, c'est nul.
Bon. Excuse-toi qui va choisir, déjà.
Non, parce qu'en fait, tu peux pas, parce que de toute façon, c'est pas tout le temps les mêmes joueurs, quoi. Donc, ça va marcher. Carré Magique, c'était.
Pas Carré Magique. Oui, au départ, il y a Gengini, après, il y a Luis Fernandez.
Ah ouais.
Donc, il y a aussi eu. Débat.
Bon, bref, moi, ça me saoule, c'est sûr.
Le Maroc bat le Canada 3-0. Alors, il y a un truc assez marrant. C'est que le sélectionneur canadien, qui est un Américain, Jesse Marsh, qui dit de lui-même qu'il a un ego, il dit voilà, non, les Américains, on a le boulard, bon, bref. D'ailleurs, Maxime Chadeau est américain, donc ça tombe bien. Jesse Marsh dit après le match, le Canada était la meilleure des deux équipes. On avait le contrôle. Donc, un peu bizarre, il a pris 3-0 et il dit ça.
Waouh, tu prends 3-0, tu dis que t'as la meilleure équipe et tu dis que t'avais le contrôle, mais quel contrôle en fait?
Et Mohamed Ouabi, sélectionneur marocain, répond assez diplomatiquement, mais répond: ah, bah, dans l'intensité, ils ont été bons, ok, mais enfin bon, quand tu perds 3-0, faut quand même oser un truc, non? T'es genre, ils ont rien fait en fait, ce que répond.
Surtout oser dire ça.
Il a dit Ouabi, quand même, il n'y a pas photo. Répondu Ouabi.
La vérité, c'est que sur la première mi-temps, j'ai été très inquiet pour le Maroc parce que tactiquement, c'est absolument une leçon qu'ont donné les Canadiens. Une leçon, attention, ça ne veut pas dire que tout ce que j'entends par le mot leçon soit positif. Parce que leur leçon, c'était de faire un pressing, des prises à deux, à trois sur tout le monde, couper toutes les trajectoires de ballon dans une intensité absolument folle qui ont mis les Marocains en apnée. J'ai cru que les Marocains ne pourraient pas se sortir de cette situation et qu'ils allaient s'empêtrer dans un match avec des gars sans arrêt sur le paletot, avec des mecs qui étaient prêts à courir comme des dératés pendant tout le match. Sauf que là où c'est limité, c'est qu'en dehors de ça, ils ne font rien d'autre. Ils ne produisent pas de jeu. Ils essayent de te faire déjouer. La récitation de la leçon tactique, elle est parfaite. Sauf que c'est comme si tu avais un livre que tu devais apprendre et il manque un chapitre, notamment comment je vais mettre un but et comment je vais attaquer. Si c'est juste récupérer un ballon haut ou l'exploiter, ok, ça peut être dans la leçon, mais il va falloir que t'aies les joueurs qui soient très forts pour le faire, de t'exploiter un ou deux ballons. Donc ils les ont emmerdés, donc ils ont bloqué, donc ils ont été très bons pendant la première période dans leur registre, sans créativité, mais dans leur registre de bloquer. Sauf qu'après, les Marocains ont trouvé la faille sur cette combinaison sur coup franc qui est venue très vite, et là ça a tout changé. Là ça a tout changé parce que les Canadiens ont dû faire autre chose et ils en sont pas forcément capables de muter vers le plan B. Mais la combi Hakimi-Ounahi sur le coup franc, ça a fait basculer le match et ça a empêché le Maroc de s'empêtrer dans cette rencontre que j'ai trouvé tactiquement intéressante, mais globalement, en tout cas dans la première période, un peu chiante à suivre quand même.
Max.
Ouais, je suis d'accord avec Daniel. Alors moi, les 20 premières minutes, à l'instar de ce qu'a dit Daniel, j'étais un peu inquiet pour les Marocains, et notamment à cause du pressing et de l'intensité imposée par les Canadiens. Après, on connaît Jesse Marsh. Tu sais, c'est un entraîneur qui est pro Red Bull, donc on connaît un peu la manière de jouer de ce groupe-là. C'est très basé sur l'intensité. Donc c'est vrai que les Marocains ont du mal à matcher ça, mais une fois qu'ils ont laissé passer l'orage, et notamment après la mi-temps, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a tendance toujours à négliger un peu les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, c'est le cas de l'équipe de France. On va peut-être les travailler parce qu'on se rend compte que dans des parties qui sont assez fermées, des fois la libération.
Pas très bien géré d'ailleurs aujourd'hui les coups de pied arrêtés côté français.
Ouais, exactement. C'est pour
j'aurais
ça que
bien aimé voir deux, trois combinaisons à la portugaise.
Je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Didier Deschamps doit vraiment insister sur ça, parce qu'on se rend compte que dans un mondial et avec un niveau aussi élevé, les coups de pied arrêtés, parfois, c'est ce qui permet de débloquer une rencontre. Mais je suis d'accord avec Daniel. Moi, c'est vraiment sur cette première mi-temps, j'étais un petit peu inquiet. Après, je savais que l'intensité des joueurs de Jesse Marsh allait baisser. Et puis finalement, ça se termine sur un 3-0. Mais c'est un peu anecdotique parce que les deux derniers buts, c'est des transitions offensives. Les Canadiens étaient portés vers l'avant pour essayer d'égaliser. Moi, je pense, et j'ai envie de mettre en avant aussi la blessure de Saïbari. Je pense que ça va vraiment être un impact négativement parlant
pour cette équipe
du
Maroc. Et puis je me pose toujours aussi la question quand même sur l'axe de la défense centrale. Alors Issa Diop, il a été important sur l'égalisation contre les Pays-Bas, mais c'est vrai que là les deux centraux, je me dis que quand même contre un Kylian Mbappé, contre un Ousmane Dembélé, contre un Michael Olise, juste pour mettre en rapport avec le prochain match de l'équipe de France, ça risque d'être très très compliqué, voire un petit peu léger pour les Marocains d'essayer de contrer cette attaque française avec cette ligne défensive, même si leur arrière latéraux, que ce soit Hakimi et Mazraoui, sont énormes. C'est vrai qu'individuellement parlant, cette doublette là de défenseurs centraux, je doute un peu.
Sur Saïbari, les Marocains ont dit que pour l'instant on peut pas dire, mais on en saura plus dans les prochains jours.
Bon, là,
on
ça a l'air de pas sentir très bon. Quand même,
hein. Écoutez,
là, tant mieux pour eux.
Mais écoutez sinon... Wabi, le sélectionneur, parce que tout de même c'est évidemment une confirmation pour le Maroc qui fait partie des 10 meilleures équipes au classement FIFA et qui donc atteint un quart de finale pour la deuxième fois d'affilée. On écoute.
Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand les gens parlent du Maroc, ils parlent d'un prétendant, ils parlent d'une grande nation. Et c'est une grande fierté de pouvoir entraîner et de représenter mon pays. Mais je pense que ce n'est que les débuts. On veut aller plus loin, on veut pas s'arrêter, on veut y croire. Mais on va garder la même ambition, le même objectif, avec la même confiance et puis surtout la même humilité. Je m'attendais au match le plus difficile. On sort vainqueur avec 3-0. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont gagner ce score-là en huitième de finale.
Moi, je suis absolument d'accord avec lui. J'aime l'idée que le travail soit récompensé. Ce que fait le Maroc depuis quelques années maintenant, c'est admirable. Gilbert, on a eu la chance de visiter leurs installations à Rabat, de comprendre la politique sportive qui est développée maintenant depuis quelques années là-bas, soutenue au plus haut niveau, puisque le roi Mohamed VI est très impliqué, et il l'a été en tout cas dans ce développement du sport et du foot en particulier. Que ce soit récompensé de cette façon... Ça veut dire deux Coupes du Monde de suite où t'es top 8 pour l'instant. Voilà, bon, on va voir ce que ça donnera contre les Bleus. Mais déjà, top 8, c'est formidable. Une finale de Cannes, une Cannes très bien organisée, en ligne de mire, dans 4 ans, la Coupe du Monde, où tu vas co-organiser.
Ils ont gagné la Coupe du Monde du vin, oui, t'as raison.
Bien sûr. Une Coupe du Monde que tu vas co-organiser dans 4 ans, où tu auras peut-être la finale chez toi. Je ferai même le pari que c'est chez eux qu'aura lieu la finale. Progression à tous les niveaux, dans les catégories de jeunes, recherche des joueurs binationaux pour les faire venir. T'as même plus tellement besoin d'insister maintenant parce que c'est motivant de venir jouer pour le Maroc. C'est devenu une nation tout simplement qui compte. Je disais tout à l'heure, j'étais avec Younes Belanda et Duga. Dis-moi, dans ma génération, quand t'arrives à une Coupe du Monde, les équipes que tu surveillais toujours, c'était Brésil, Argentine, Italie, Allemagne. Après, la France est arrivée petit à petit dans mon adolescence et s'est installée maintenant et quasiment tout le temps là. L'Espagne aussi, qui quand j'étais môme, était vraiment une sale équipe. C'était pas beau l'Espagne à notre époque. Et maintenant, parce que les temps changent et les équipes évoluent, les sélections, les nations, le Maroc c'est devenu une nation phare du football. Voilà, parce que le travail qui a été fait est bon et est récompensé aujourd'hui. Bravo à eux.
Ouais. Alors le match, vas-y.
Je voulais juste aussi mettre en avant, parce qu'on a tendance à toujours parler des offensifs, mais Bounou qui a encore fait un grand match, parce que s'il ne sauve pas la première occasion, je crois que c'est sur Oluwazeyi, là où est-ce qu'il fait cette roulette, où est-ce qu'il se met sur son pied gauche et qui frappe croisé. Si en tout cas Bounou n'est pas là pour les sauver, c'est sûrement un match différent. Et c'est vrai qu'honnêtement, ça fait quelques années que Bounou est peut-être pas sous-coté, mais qu'on a tendance à pas assez parler de lui, parce que c'est aussi un grand bonhomme de cette sélection marocaine.
Et peut-être qu'il a inventé une nouvelle façon façon de gérer les tirs au but. Vous avez vu, hein, on en a déjà parlé un petit peu, les fameux petits pas de pas chassés pour occuper l'espace plutôt que plonger en tombant à terre, ça lui a permis d'être décisif lors de la séance de tirs au but du Maroc. Et c'est assez inédit, il fallait y penser. Donc peut-être qu'il y aura désormais un style Bono sur les tirs au but et peut-être qu'il va inspirer d'autres gardiens. Il faudrait qu'on ait Thierry Barnera qui nous dise ce qu'il en pense d'ailleurs à ce sujet. Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait une séance de tirs au but entre Français et Marocains jeudi soir. Hicham est là au 32-16. Salut Hicham.
Salut l'équipe. Ça va,
salut Hicham.
Bon, homme du match, Ounaï.
Ouais, grand bonhomme de ce match, un peu comme face aux Pays-Bas. Moi, je vais juste revenir quand même sur. Parce que là, on est en quart face à la France. 10 secondes sur le parcours du Maroc. Tu fais un bon match face au Brésil. L'Écosse et Haïti, c'était un peu tendu, mais finalement tu gagnes les matchs. Les Pays-Bas, tu fais un énorme match face à une équipe des Pays-Bas un peu décevante et tu finis par te qualifier au tir au but. Et là, tu arrives au Canada. Canada, t'es favori et ce statut de favori, le Maroc, je trouve, il a du mal à le gérer. Donc les 20 premières minutes, c'est un peu tendu et ces fameuses pauses fraîcheur là où tout le monde en aura le bol. Finalement, quand ça tombe au moment où toi t'es pas bien, c'est pas si mal parce que moi, quand j'ai vu la pause fraîcheur arriver, j'ai dit le coach, il va pouvoir faire des réajustements. Et les réajustements qu'il a fait, c'est notamment sur le pressing des Canadiens. Quand ils pressaient au début du match, ils avaient 4 joueurs au milieu de terrain. Il y avait 3 défenseurs. Et en fait, le 4e se portait sur la ligne de 4. Donc, du coup, les 3 joueurs marocains au milieu de terrain, ils étaient asphyxiés. Ils pouvaient pas jouer.
Ah, mais ils étaient en apnée, les mecs. En apnée.
Voilà. Elaynaoui pouvait pas se retourner. Bouadi pouvait pas faire une passe en avant. Ounaï, pareil. Et donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'Ounaï, qui était un peu trop excentré, est revenu dans l'axe, est revenu demander le ballon et est venu aider ses deux milieux, Bouadi et Elaynaoui. Et ça a donné un peu d'air jusqu'à la mi-temps. On sort de cette mi-temps un peu frustré et on arrive à cette deuxième mi-temps où le Maroc remet un peu le pied sur le ballon et joue son foot. Là, on arrive en quart face à l'équipe de France, remake du Qatar 2022, la demi-finale. Rappelez-vous la demi-finale, les garçons. La demi-finale, elle se joue, je ne vais pas dire sur des coups de dés, mais la France a fait son match. Mais
et tu ajoutes que la demi-finale, tu as l'impression qu'on a un Maroc qui arrive un peu physiquement rôti.
Exactement, physiquement rôti avec un problème en défense centrale. On fait jouer Saïs, on passe à une défense à 5. Et c'est là où je veux attirer votre attention, c'est qu'est-ce que va faire le coach marocain. Et je pense que Daniel a répondu à la question, il ne faut pas se renier. Il faut garder les mêmes préceptes et les mêmes principes que depuis le début. Vouloir avoir le ballon, vouloir jouer, vouloir aller de l'avant et ne pas subir. Parce que si on fait ça, on va faire exactement le même entame que face à l'équipe de France au Qatar. On cafouille et au final, Hernandez, il met un but après une frappe déviée. Et pareil sur le deuxième but, hein, c'est Mbappé qui fait un petit jeu, qui frappe déviée. La balle a fini sur Colomoigny au deuxième poteau.
C'est ça.
Donc j'espère que le Maroc va garder ses préceptes, va garder ses principes de jeu. Et après, franchement, je mettrai une petite pièce sur le fait que ça se joue en prolonge, peut-être au tir au but. Et comme on dit, quand tu veux faire une grande compète, le seul talon d'Achille de cette équipe, c'est que là, en plus, on a Saïd Barry qui est blessé. Si tu veux faire une bonne compète, il te faut un bon gardien et un bon numéro 9. On a le bon gardien, on n'a peut-être pas le bon numéro 9.
Devant, c'est un problème. Et pourtant, j'aimais bien beaucoup Saïd Barry et je suis vraiment inquiet de son absence.
Raimi, je trouve que c'est un peu léger. J'espère. Il y a encore un mec sur le banc touche. C'est El Kaabi, c'est un vrai
toujours là.
Un pivot El Kaabi. Et je pense qu'il peut emmerder physiquement Upamecano et Saliba. Maintenant, sur la vitesse, il ne va pas les emmerder. Mais je pense qu'on peut essayer avec El Kaabi plutôt qu'avec Raimi, qui lui est un peu plus frêle, il va se faire bouger par Upamecano et par Saliba. Et appuyer sur le talon d'Achille de l'équipe de France, vous n'en avez pas assez parlé. Je trouve que, alors Digne a gagné sa place, ok, mais je trouve que c'est un peu léger. Koundé, pareil. Koundé, on me dira ce qu'on veut.
Si t'arrives à pouvoir aller jusque-là et les inquiéter, oui. Mais en fait, tu sais, ce que tu dis est intéressant, mais je vais te soumettre une autre réflexion par rapport à ce match. Il y a 4 ans, puisque t'as parlé de ce match-là, moi j'ai le sentiment que la demi-finale n'a pas été abordée de la même manière par les Marocains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Marocains avaient fait un parcours assez incroyable, puisque si tu mets les matchs de poule dedans, c'est une équipe qui avait quand même joué Croatie, Belgique, si je me trompe pas.
Croatie, Belgique, Canada.
Ouais, et Canada, je compte pas. On va compter. Je voulais faire une sorte de parcours en comptant les gros. Donc déjà en poule, t'avais ça. Derrière, t'as fait l'Espagne, t'as fait le Portugal, était arrivé sur la France. Et moi, j'avais senti, je me trompe peut-être, qu'il y avait une forme d'aboutissement pour le Maroc. On a fait quelque chose, enfin, parce que l'Espagne, ça avait été en intensité émotionnelle fort. T'avais fait le Portugal. Waouh, ils sont capables deux fois, parce que quand t'as fait l'Espagne, tu dis bon, ben là maintenant c'est bon, la fête elle est finie, non? T'as réussi? Non, tu as fait. Et là arrive la France. Moi, j'avais vu le match comme ça. Bon, c'est bon. On a fait tout ce qu'on a pu dans cette Coupe du Monde. On est rôti. On a trop donné. C'est fini. Et il y avait eu comme l'acceptation de la défaite. Quatre ans plus tard, avec cette évolution dont on parle au Maroc, avec tout ce qui se passe et les nouvelles ambitions, le quart de finale qui arrive, de quelle façon mentale, je parle de mental avant de penser tactique et tout, de quelle façon les Marocains vont arriver? Est-ce qu'ils arrivent en disant, alors que les Bleus font peur à la terre entière, nous, on n'a pas peur, on veut gagner ce match. On n'arrive pas à la tête baissée, on n'est pas résigné. Pour moi, une des clés, parce que objectivement, je pense qu'on sera d'accord en termes de qualité pure, la France est au-dessus, il n'y a pas photo pour moi, mais puisque le Maroc en a aussi et qu'un exploit est toujours possible, si tu dois y arriver, ça va être avec des qualités mentales hors du commun.
Moi, j'ai une question à te poser. Du coup, si le Maroc réussit à passer le tour de la France, est-ce que tu le qualifies d'exploit ou pas?
Contre ces, alors autant contre les Pays-Bas, je refusais l'expression. Contre les Bleus, s'ils le font, pour moi, c'est un exploit.
Bah moi, c'est, moi
n'importe quelle équipe mental, d'ailleurs.
Oui, parce que mental. C'est les finalistes, c'est les favoris. Ils sont finalistes 2018, vainqueurs, finalistes 2022.
Je vois très bien ce que tu veux dire, mais là, l'aspect mental, il va venir se buter face aux quatre de devant de l'équipe de France. Je suis désolé. Moi, tu peux m'expliquer, et je comprends exactement où est-ce que tu veux en venir, mais l'aspect mental, l'environnement, la manière de conditionner les joueurs pour ce match-là, il va se taper au réel. Et le réel, c'est Mbappé, Odysseus, Dembélé, Barcola.
Ah ben, oui, mais le réel, c'est que l'équipe de France a des qualités supérieures à tout ce qui se fait dans le monde en ce moment. Donc, les Marocains, s'ils veulent faire cet exploit, il va falloir trouver des ressources mentales que là, au moment où on se parle, 2h44 à 4 jours du match, je t'avoue que j'ai du mal à envisager.
Moi, je pense qu'il y a une chose à prendre en considération, c'est que Wabi n'a pas énormément fait tourner ses titulaires, si ce n'est peut-être contre Haïti, où est-ce qu'il avait ressorti Mazraoui de mémoire. Il avait fait aussi entrer El Kabi en tant que numéro 9. El Aïnaoui a quasiment tout joué. Pareil pour Bouadi. Il ne faut pas oublier que le Maroc a aussi une prolongation contre les Pays-Bas. Moi, sur la première entame, en tout cas sur les 30 premières minutes contre le Canada, j'avais mis un peu le fait qu'ils soient un peu en dessous sur le fait qu'ils étaient empruntés physiquement. Je l'avais mis là-dessus. Je me suis dit, regarde, ils ont 30 minutes de plus dans les jambes que les Canadiens. Mmh. Attention, ils ont encore 90 minutes supplémentaires avec Assaï Barré qui s'est blessé. J'ai un peu peur que les Marocains arrivent contre cette équipe de France en étant grillés. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais c'est des joueurs qui ont énormément joué en club, c'est des joueurs qui ont quasiment tout joué depuis le premier match de la compétition de cette Coupe du Monde. Là, tu vas jouer aussi contre un bloc français qui va te mettre beaucoup plus d'intensité. Voilà, alors ils ont toutes les qualités pour gagner contre cette équipe de France. Attention, moi, c'est l'équipe qui me plaît le plus depuis le début de cette compétition. Je l'ai dit dès le premier match contre le Brésil. Alors, c'était pas une surprise. Daniel a bien rappelé un petit peu leur stade sur les dernières années en Coupe du Monde 2022.
Le Mexique, la Colombie, c'est très enthousiasmant.
Oui, non, mais je te dis, c'est l'une des des équipes, moi, qui me fait tout kiffer. Le match contre les Pays-Bas, j'ai adoré. Maintenant, il y a des choses à prendre en considération, et notamment le fait que Wabi ait peu fait tourner ses titulaires, et ça aussi peut-être un avantage pour cette équipe de France. On le sait, Deschamps, lui, a quand même fait un turnover assez important entre ses 11 titulaires, et il a fait rentrer quelques pions, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle t'as des Français qui sont en pleine forme. Ça a moins été le cas, en tout cas, pour les Marocains, en tout cas sur la première mi-temps contre le Canada.
Et après, juste pour conclure par rapport à ce que dit Maxime, peut-être que Wabi a pas fait beaucoup tourner, mais il y a quand même des joueurs qui sortent du banc de touche et qui font la différence. Talbi, il sort deux fois du banc de touche, c'est une passe décisive sur Diop, et c'est un enchaînement là face au Canada où il récupère, il accélère, il monte et il décale Brahim Diaz. El Mourabet, il est intéressant, le joueur strasbourgeois. Je pense que Gilbert l'a assez vu cette année pour
très bon joueur.
Dire qu'il a d'énormes qualités. Donc il va s'appuyer sur son 11 de départ, on le connaît, on sait plus ou moins qui va jouer, à part si Saïd Barry est blessé et en défense centrale, si Shadi Riyad est encore blessé, on aura la même charnière que ce soir. Mais il y a quand même 2-3 joueurs qui peuvent sortir du banc et apporter ce supplément d'âme. Maintenant, il faut être lucide. Il faut être lucide sur ce qu'est l'équipe de France, sur ce qu'elle dégage, sur en plus, ce qui est, je reviens sur l'aspect psychologique, c'est ce truc de domination totale. On a l'impression que les Français, même face au Paraguay, la Suède, bon, c'est pas le même niveau, mais dès qu'ils perdent le ballon, c'est quasiment instantané. T'as les deux du milieu de terrain, Rabiot, Koné ce soir, ou Rabiot Tchouaméni, qui récupèrent direct. Donc du coup, t'es vite essoufflé, t'es vite... Et trouver la solution pour pas perdre rapidement le ballon, le garder, faire son jeu et essayer d'avancer un peu... Ah, il a un sacré casse-tête, mais en tout cas, ça sera un bon match.
Dis-moi, Hicham, Brahim Diaz, ouais, qui fait deux passes décisives aujourd'hui.
Bah écoutez, je
ça y est, l'histoire de la CAN, c'est oublié.
Je suis content pour lui et franchement, je suis soulagé pour lui parce que je pense que psychologiquement, ça doit être un fardeau pour ce joueur. Techniquement, c'est un plaisir de
voir. Moi, je le trouve encore un peu effacé.
Il est emprunté. Il est emprunté.
Ouais, moi, par rapport à sa technique, après, j'attends toujours plus de lui. Là, c'est vrai qu'il y a les deux passes, mais.
Ouais, et après, je pense que sur son côté, c'est tout le côté en fait. Faut qu'on soit clair. Hakimi, c'est un monstre. Et il a montré toute l'année que c'est. Là, sur cette Coupe du Monde, il y a des matchs où il est sur courant alternatif et du coup, ça ne sert pas aussi Brahim Diaz. Donc du coup, je lui en veux pas et je suis très content qu'il ait délivré ses deux passes décisives. Je suis très content des célébrations qui ont suivi derrière autour de Brahim Diaz et de Unai. Et je pense qu'il a quand même une chape de plomb psychologique qui lui est tombée après la CAN et il est en train de se libérer petit à petit de ça. Et peut-être que face à l'équipe de France, je sais pas, il va avoir un éclair de génie, un truc, une frappe enroulée. Et j'espère pour lui qu'il sera... décisif en marquant un but en fait. Là, il a été décisif en donnant deux passes décisives et je suis soulagé pour ce bonhomme parce que ça se voit que c'est un gentil mec en fait. Il a fait sa panenka, il l'a foiré. Voilà, on passe à autre chose, on a la Coupe du Monde. Faut oublier, faut avancer et j'espère vraiment qu'il sera décisif sur ce match-là. Et s'il ne l'est pas, il le sera dans le temps et il faut pas l'oublier. Il a choisi le Maroc. Techniquement, c'est un monstre. Donc, il faut aussi saluer le travail qu'il fait et ne pas rester bloqué sur cette panenka karaté.
Hicham, tu considères que le Maroc a gagné la CAN ou pas?
Franchement, je l'ai déjà dit. Je suis passé à l'antenne le soir même, à 10 minutes après le match. Un match, ça se gagne sur le terrain.
Ah oui, je m'en souviens.
Ouais, un match, ça se gagne sur le terrain. Moi, gagner la CAN dans un bureau deux mois après, par mail ou par fax.
Je crois que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le débat, il n'existe même plus, en fait.
Vous avez eu le père El Aïnaoui qui disait que son fils ne se sentait pas vainqueur de la CAN. Bah, la CAN, il y en aura une autre en 2027, il y en aura une autre en 2028 ou 2029, et il faudra la gagner sur le terrain. Et puis voilà, mais après, la CAN, c'est un autre débat. Hein.
Bon, alors attendez, je reste quand même avec tout parce qu'il y a quand même un sujet là. On va beaucoup parler d'Ayoub Bouadi d'ici à jeudi. Pourquoi le sujet a été relancé par Hubert Fournier, qui est le DTN du football français, n'est-ce pas, Daniel?
Qui ça?
Hubert Fournier. Il a donné une interview à The Athletic.
Hubert Fournier a donné une interview?
Ouais.
Mais ouais. Sérieux, c'est la première de sa vie, qu'est-ce qui se passe?
Bah écoute, il explique, je cite.
Là, c'est un événement, rien que ça, t'as même pas besoin de lire l'interview, rien que ça.
Il parle
fort.
De Bouadi. Parce qu'il y a un truc, je sais pas, moi je vais vous dire comment je l'ai interprété, vous allez me dire si c'est moi qui fais une fixette ou si
oui, moi je pense, j'anticipe sur quelque chose qui va être décevant.
Il dit, je cite.
Non, mais je l'ai lu la déclaration.
Attends, mais je la donne à tout le monde. Il dit, Bouadi est un talent que nous avons suivi pendant de nombreuses années et nous savons que dans sa catégorie d'âge, il est unique. Il dit, c'est une perte importante pour notre fédération. Mais, il dit, on ne pouvait pas l'emmener au mondial parce que le sélectionneur considère qu'il n'était pas encore prêt.
Bah oui, alors, c'est tout à fait vrai. En plus, j'ai raconté ce qui s'est passé.
Didier Deschamps, il a fait un choix. Et en fait, le choix qu'il dit, en gros, c'est il n'est pas encore mature pour jouer en Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Il dit c'est pas ça, c'est qu'il est meilleur à son poste, c'est tout. C'est ça qu'il veut dire.
C'est que là, à son âge, tu ne pouvais pas lui garantir qu'il allait. Mais attends, si jamais on avait accédé à ce truc-là, c'était genre accéder à une forme de chantage. Genre, tu me prends, sinon je vais avec le Maroc. Écoute, mon grand, va avec le Maroc, il n'y a aucun problème. Hein, tant mieux pour toi, c'est une belle sélection.
Daniel, personne dit ça chez les Bouadi au Maroc. Personne dit soit on joue la Coupe du Monde, soit on va pour le Maroc. Ça se trouve, c'est un choix du cœur. C'est ce débat sur les binationaux, il est inexplicable.
Hicham, permets-moi. Tu sais très bien ce que je dis. Tu sais très bien ce que je dis pour les binationaux. Moi, chacun fait comme il le sent. S'il veut aller jouer pour le pays des parents, des grands-parents, pas de problème. Et à parfois. n'oublions pas qu'il y a également de l'opportunisme, et même ça j'ai du mal à le critiquer, parce qu'après tout, si t'aimes les deux équipes et si tu te vois jouer dans les deux pays, bah écoute, au bout d'un moment tu fais un choix parce que l'opportunité se présente. Et là je pense qu'on est plus dans ça, parce que Boadi dans un premier temps avait plutôt manifesté son envie de jouer pour la France, et que l'opportunité d'être pris dès maintenant,
c'est vrai ça.
Alors, en fait, le truc c'est que si
Hicham, on a plusieurs sources.
Voilà, si c'était si ça avait été il y a 10 ans ou 15 ans, bon, le gars aurait dit je vais peut-être attendre. Mais aujourd'hui, le Maroc offre de telles possibilités. Il y a une belle sélection. Tu sais que tu vas déjà, ben d'ailleurs la preuve, le Maroc est déjà un acteur de cette Coupe du Monde. Ils sont déjà en quart de finale. Il y a 15 ans. Si tu sais pas si le Maroc va aller à la Coupe du Monde ou qu'est-ce qu'ils vont y faire, bon bah tu dis ok c'est bon, j'attends une Coupe du Monde, j'ai 18 ans, je m'affole pas, j'attends mais je veux jouer avec les Bleus. Là, l'opportunité elle se présente maintenant. Bah écoute, moi j'ai aucun problème avec ça. Il a fait le choix. Tous les binationaux savent qu'on a le cœur souvent un peu coupé en deux. Pas de problème, vas-y mon vieux. Mais lui, dans un premier temps, moi je te le dis, puis, il avait plutôt manifesté l'envie de jouer pour les Bleus.
Il y a une réalité, c'est que Boadi, aussi performant soit-il du côté du LOSC et pendant cette Coupe du Monde avec le Maroc, Boadi n'aurait pas pu être sélectionné actuellement avec l'équipe de France.
Pas dans cette Coupe du Monde.
Il est en dessous de Tchouaméni, Koné, Rabiot.
En revanche, si tu vois, t'avais eu, je sais pas moi, dans le groupe, comme à une époque, t'avais Guendouzi, de mecs comme ça et tout, là, en revanche,
ça aurait été différent, bien sûr.
Mais là,
t'as un mec comme Zaïre Emery qui joue pas une minute alors qu'il joue au Paris Saint-Germain, c'est l'un des meilleurs.
Et qu'il est champion d'Europe. Donc, il n'y a rien de mal, en fait, dans cette histoire-là.
Ce qui aurait été dommageable, excusez-moi messieurs, c'est si Boadi aurait choisi l'équipe du Maroc uniquement parce qu'il n'était pas en mesure d'être sélectionnable pour cette Coupe du Monde 2026 avec la France, ce que je ne pense pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas discréditer la fédération marocaine par rapport au travail qu'elle a fait, et Daniel l'a très justement dit il y a quelques minutes.
C'est pour ça que je te dis ça. Aujourd'hui,
Choisir le Maroc, c'est presque logique maintenant.
Max, il y a mille moyens de chercher des problèmes dans ces histoires-là. Et on a vu que, justement, autour du Pays-Bas Maroc, d'ailleurs, ça mériterait peut-être un débat un soir, il y a eu beaucoup de polémiques. Certaines étaient justifiées. Les binationaux, je le sais, je le vis, j'ai un enfant qui a fait du sport et tout, ça peut poser problème parfois. Toute ta vie, t'as grandi dans un pays, t'as suivi, t'as profité des infrastructures, t'as grandi dans les clubs qui t'ont donné, t'as joué dans les équipes de jeunes, et arrive le moment où tu dis bah non, mais finalement je vais aller jouer pour l'autre sélection. Une DTN ou une Fédé peut trouver des choses à redire. Sauf que si le gars après il vient à reculons, ou ah mais non, mais finalement je découvre que je préférais là. Et t'as entendu ce qui s'est passé autour de Pays-Bas Maroc? T'as quand même des gens qui ont porté le maillot des Pays-Bas pendant des années, qui au moment du match ont dit ah je vais peut-être être pour le Maroc ce soir. Bah moi je peux comprendre ça, les polémiques qui naissent de ça, hein. Donc les binationaux, ça peut toujours être un souci. Il faut essayer d'en parler le plus calmement possible, mais ça crée pas que des soucis dans le pays. Par exemple, là, les Pays-Bas ou la France, hein. Faut pas croire, mais que ce soit en Algérie.
Je l'ai connu de mon côté, moi, Daniel, t'as pas besoin d'aller plus loin, hein. Regarde, moi, entre la France et le Luxembourg, c'est la même chose, tu vois. Donc, non, je suis bien placé aussi pour le savoir. Après, moi, j'ai fait un choix d'opportuniste, hein, vais pas te mentir. Non, mais... parce que j'avais la chance de pouvoir jouer des matchs internationaux avec le Luxembourg, chose que je n'aurais jamais pu faire avec l'équipe de France. Donc voilà, mais moi, c'était un choix par défaut. Boadi, j'espère que c'est pas un choix par défaut. J'espère que Boadi, et j'en suis même convaincu.
C'est pas par défaut.
Franchement, t'aurais dû attendre parce que t'étais à touche-touche avec Varane.
Bah, j'en suis sûr. Bah, on en a parlé avec Samuel Titi, il m'a dit t'as fait une erreur.
Non, c'est un débat qui est intéressant. Après, parce on n'en a pas du tout parlé de ce qui s'est passé en Hollande autour de Pays-Bas Maroc. Mais je le répète, en Algérie, au Maroc, ça fait également des polémiques. On veut être sûr que le mec qui vient, il vient vraiment pour choix du cœur. Mais c'est pas aussi simple que ça.
Donc c'est pour ça que l'idée de dire que Boadi est l'histoire de l'équipe de France, si vous jouez à la Coupe du Monde, ça, je pense qu'il faut le mettre. Il faut effacer cette idée.
Il avait
se
la
dire,
possibilité
non, Boadi
de le faire dès maintenant. Il l'a fait. Voilà. Il a choisi ça.
Exactement. Boadi a choisi le Maroc.
Mais
et aujourd'hui, je pense qu'il a eu raison.
Les Bleus.
Je remercie Hicham au 32-16 qui était avec nous. Salut Hicham, à bientôt. Je voulais vous donner 2-3 infos sur Olysée, les gars, parce qu'il y a une enquête de Fabrice Hawkins efficace qui nous dit voilà pourquoi le PSG ne bougera pas sur Olysée. Enfin, voilà. Déjà parce que le Bayern, évidemment, ne veut absolument pas le vendre, sauf, ça c'est toujours le truc, sauf indemnité record. Qu'est-ce que c'est indemnité record? Ça pourrait être une offre qui dépasse les 200 millions d'euros. Là, le Bayern, bon, il pourrait quand même se dire, bon, 200 millions d'euros, en effet, voilà. Mais alors, ce que Fabrice nous dit est intéressant. Il y a aussi un autre élément. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu des profilers, son profil social. En gros, au PSG, on s'interroge sur sa capacité à s'intégrer, en sachant que c'est un mec apparemment très introverti, qui a tendance à rester un peu dans son coin, et on se dit, bon, si on craque le portefeuille pour lui et qu'au final, ça colle pas, il y a un risque.
Ça voilà. Nous fasse une chevalier, quoi. Chevalier
et puis, si tu fais venir Olise maintenant, vu les joueurs que tu as, ça veut dire qu'il n'est pas garanti d'être titulaire, c'est pas possible. Si tu le fais venir, c'est qu'il est titulaire 100%.
Bien sûr.
Parce que tu vas mettre.
Si tu dis à Olise, viens au PSG. Et assis-toi sur le banc de Champions League, je suis pas sûr qu'il va être content.
Au moment où t'as Doué, Gvara qui bouge pas, Dembélé qui bouge pas, tu ne peux prendre que des jeunes qui sont en apprentissage, mais qui sont en phase de progression. De mais pas un mec qui postule limite au Ballon d'Or, impossible.
Encore deux trois infos. Vous dire que on a glosé et débattu du cas de Martinez, le sélectionneur portugais, en disant ouais, il va devenir l'entraîneur de Cristiano, il y a conflit d'intérêt et tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben non, en fait, c'est Postecoglou qui devient le nouvel entraîneur de Al Nasser. Donc, ce ne sera pas du tout Martinez.
Mais c'est pour ça qu'il l'a sorti.
Ronaldo sur le banc, le prochain match. Bon, allez, hop.
Peut-être. Non, mais comme quoi, bon, les choses vont vite dans le foot. Hervé Renard confirme aujourd'hui qu'il ne continue pas avec la Tunisie. C'était plus ou moins attendu quand même.
Il a commencé
Il a fait deux matchs. Il a tenté.
Ouais, enfin, la situation était ridicule. Hein. Pas Renard, hein, j'en veux pas à lui et tout, mais la Fédé tunisienne, il va falloir bosser. Il y a deux, trois pays où il va falloir bosser au sein de la Fédé. Là.
Le Sénégal aussi, là. Et puis, alors, je voulais finir par une petite actu franco-française. Il va falloir suivre le Red Star de très près l'année prochaine. Outre le fait que Damien Perrinel prend une équipe et que ça va devenir évidemment the place to be. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, le Red Star a recruté Elias Zidane, 20 ans, 1m96, défenseur central, gaucher. L'un des fils de Zinedine Zidane, donc va jouer au Red Star.
Bien, t'imagines le jour où le père vient regarder le match et tout.
Il va forcément venir, surtout avec la sécurité.
Ça met une grosse pression sur Damien, il est obligé de le titulariser.
Le problème de Damien, c'est que quand il va venir, du coup, il sera sélectionneur. Pas qu'il y ait trop de joueurs en équipe de France, quand même. Voilà. Bon, allez, c'est fini. Quasi 3h du matin. Merci, ciao. Daniel. Merci, Max. Bien sûr, la nuit de l'after revient dès demain soir avec deux beaux matchs, notamment Espagne-Portugal, demain soir à 22h. Et ensuite, dans la nuit, à 2h du matin, on aura Mexique-Angleterre. Allez, bye bye et à la nuit prochaine.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.